Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalot enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdie. Par cette rediffusion, Radio Lapourdie rend hommage au Père Joseph Sabalot, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, 10e épisode de la Chevalerie.
Voilà 6 siècles, que les barbares avaient commencé à déferler sur l'Occident, la barbarie était toujours là. Point n'était besoin de nouveaux envahisseurs, les seigneurs, les comtes, les barons étaient des gens de guerre et de proie, qui ne connaissaient pas d'autre loi que la force, qui pillaient, qui violaient, qui incendiaient, qui mutilaient, qui torturaient, qui massacraient. La société du Moyen-Âge, dit Daniel Hobbes, demeurait une société brutale, féroce aux petits et aux vaincus, et d'une vie sexuelle rien moins qu'exemplaire. Se ruer contre son voisin, sur les biens d'église, sur des paysans sans défense, étaient des tâches en quelque sorte professionnelles, où les hommes de guerre se faisaient la main pour des opérations de plus vaste envergure. Et Léon Gautier écrit dans le même sens « Il est malaisé de se figurer une époque plus troublée que les 9e et 10e siècles. On se bat un peu partout, de famille à famille, d'homme à homme. Aucun chemin n'est sûr. Les églises brûlent. C'est un effarement universel. Il n'est pas d'hommes qui ne sont occupés à se chercher des protecteurs. Le roi n'est plus de taille à défendre personne. » Et les comtes se font rois. Le soleil de la royauté s'éteignant, on demande de la lumière aux étoiles. Dès que l'on voit un fort soldat, résolu et montrant les dents, bien campé en son donjon de bois, bien fortifié dans les limites de sa haie vive, de ses palissades de branches mortes, ou dans ses barrières de planches, bien juché sur sa colline, contre son rocher ou sur sa motte, et dominant de là toutes les routes d'alentour, dès qu'on le voit, on va vers lui, on lui dit « Je suis ton homme », et toutes ses faiblesses se groupent autour de cette force qui, dès demain, entrera en lutte avec les forces voisines. Épouvantable pêle-mêle de guerre privée, tout le monde se battant ou pensant à se battre. Avec cela, les souvenirs encore tout frais de Charlemagne et de l'Ancien Empire, une je ne sais quelle grandeur impériale se faisant encore sentir dans l'air des grandes cités, tous les cœurs se soulevant à la seule pensée des Sarrasins et du tombeau du Christ, la croisade se préparant longtemps à l'avance dans la colère et l'indignation de toute la race chrétienne, tous les yeux se tournant du côté de Jérusalem et au milieu de tant d'éparpillements et de ténèbres, l'unité de l'Église survivant à tant de majesté détruite, quel temps! Il est remarquable que l'Église, en répandant l'esprit de l'Évangile par ses moines, ses docteurs, ses évêques, ait réduit, dans une certaine mesure, cette énorme, universelle et anarchique violence, en inspirant 3 institutions, la paix de Dieu, la trêve de Dieu et la chevalerie. La paix de Dieu. Au cours d'assemblées appelées des conciles ou des synodes, la première semble avoir eu lieu à Charroux, en Poitou, en 989. Au long du XIe siècle, principalement, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des hommes d'armes font serment de respecter la vie et les biens des clercs et des paysans. Il arrive même que des évêques organisent des milices qui font la guerre à la guerre et pourchassent les pillards et les assassins. La trêve de Dieu. La voix de l'Église parvient à limiter le temps de la violence. Vaille que vaille, on l'interdit ici ou là pour telle ou telle période, le carême ou l'avent ou les fêtes de la Vierge. Le synode de Nice, en 1041, essaie de l'empêcher pour 4 jours de chaque semaine, le jeudi en souvenir de l'ascension de notre Seigneur, le vendredi du fait de sa passion, le samedi à cause de son ensevelissement et le dimanche, jour de sa résurrection. La chevalerie a une portée plus grande. C'est une des institutions les plus significatives du Moyen-Âge. Elle métamorphose le baron paillard, pillard et sanguinaire en guerrier chrétien. On en a parlé avec les correctifs qui s'imposent comme d'un 8e sacrement. Née au 11e siècle, elle connaît son apogée au 12e et au 13e et se prolonge jusqu'au 16e où l'on voit encore le chevalier Bayard adouber le roi de France François Ier le soir de Marignan. Quoiqu'elle concerne plus ou moins toute l'Europe, elle est particulièrement influente en France, où il semble bien qu'au XIIIe siècle, une grande partie des seigneurs soit armée chevalier. Nous la connaissons par l'histoire et par la littérature de ce temps-là, le roman de chevalerie. Et là, ses spécialistes. Hier, Léon Gautier, aujourd'hui, Georges Duby, par exemple, ou Jean Fleury. C'est à la fin du XIIe siècle, écrit ce dernier. Tous les historiens semblent aujourd'hui en tomber d'accord que la chevalerie acquiert ses traits définitifs, ceux d'une véritable institution sociale. La chevalerie, dès le XIIIe siècle, est constituée de l'ensemble des guerriers d'élite de naissance aristocratique. C'est l'expression militaire de la noblesse qui recrute ses membres par cooptation par le moyen d'une cérémonie honorifique, fastueuse et teintée de coloration idéologique exprimée dans une liturgie en plein développement, celle de l'adoubement chevaleresque. Le chevalier, c'est d'abord, le mot l'indique, un combattant à cheval. Au XIe siècle, la chevalerie est devenue la reine des batailles. La lance, longue maintenant de 3 mètres et plus, tenue en position horizontale fixe, calée sous le bras, permet des charges rapides, massives, compactes, destinées à disloquer les lignes adverses, à les culbuter, à désarçonner l'adversaire. Cette nouvelle forme d'escrime collective exige un entraînement assidu, des armes coûteuses, des chevaux de prix. Il en résulte de profondes modifications dans la tactique militaire, dans l'idéologie sociale et dans l'éthique d'une chevalerie qui, au cours du XIIe siècle, tend à se transformer en caste. Jean Fleury va jusqu'à comparer l'impact de cette innovation à celui qu'eut au XXe siècle l'usage massif des blindés sur les champs de bataille. Ainsi, la chevalerie, d'abord ouverte à d'autres classes, on voit en Louis VI le Gros armer un boucher après une bataille au cours de laquelle il a brillé par sa bravoure, devient le monopole de l'aristocratie. Une éthique chevaleresque se constitue, un code d'honneur fait de noblesse, de fidélité, de droiture, de générosité, de libéralité, mais aussi d'orgueil et d'insolence. Ce code s'exprime dans la chanson de Roland, dans le Romancero del mio Cid, dans les Nibelungen ou dans les romans de la Table ronde. Par exemple, dans ce passage de Lancelot du Lac. Quand les faibles ne purent plus tenir ni résister contre les forts, ils établirent au-dessus d'eux des garants et des défenseurs pour garantir les faibles pacifiques et les gouverner selon la justice, ainsi que pour dissuader les forts des injustices et des outrages qu'ils commettaient. Au commencement, quand fut institué l'ordre de chevalerie, il fut prescrit à celui qui voulait être chevalier, qui en avait reçu le don par droit d'élection, d'être courtois sans vilenie, débonnaire sans méchanceté, compatissant aux malheureux, large et prêt à secourir les indigents, disponible et prêt à confondre les voleurs et les assassins, juge équitable, sans amour et sans haine. Il doit craindre le déshonneur plus que la mort. Le chevalier fut institué pour protéger la Sainte Église en toutes choses, car elle ne doit pas se défendre ni rendre le mal pour le mal. Léon Gautier, dans son livre sur la chevalerie, un classique sur le sujet, expose la morale du chevalier à la manière d'un décalogue. Premier commandement, tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et observeras tous ses commandements. 2, tu protégeras l'Église. 3, tu auras le respect de toutes les faiblesses et t'en constitueras le défenseur. 4, tu aimeras le pays où tu es né. 5, tu ne reculeras pas devant l'ennemi. 6, tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. 7, tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. 8, tu ne mentiras pas et seras fidèle à la parole donnée. 9, tu seras libéral et feras largesse à tous. 10, tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Les cérémonies au cours desquelles le damoiseau était adoubé, c'est-à-dire armé chevalier, prirent au XIIe siècle un caractère religieux on ne peut plus marquer. La confession sacramentelle, le bain rituel, la longue tunique blanche, la nuit passée en méditation et en prière, la messe solennelle à laquelle participent un clergé nombreux, 12 témoins, tous chevaliers notoires et un grand concours de peuple, la vêture du haubert, la cotte de maille, de la cuirasse et des éperons, enfin les grands coups de plat d'épée sur les épaules, la paumée ou la collée, suivant le vieux rituel germanique. On connaît les prières qui accompagnaient cette initiation solennelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Seigneur, écoute nos prières et daigne bénir de ta droite majestueuse cette épée dont ton serviteur ici présent a désiré être saint, pour qu'il puisse être le protecteur et le défenseur des églises, des veuves, des orphelins et de tous les serviteurs de Dieu contre les sévices des païens, et qui n'aspire au perfide la peur, la terreur et la crainte. Nous te demandons, Seigneur, de munir de ta protection bienveillante ton serviteur, afin qu'avec ton aide, il conserve intacte cette épée qu'il a désiré recevoir à ton instigation. Quant à toi, alors que tu es sur le point de devenir chevalier, souviens-toi de la parole du Saint-Esprit, « Saint ton glaive sur ta cuisse, ô très vaillant guerrier ». Le glaive, en effet, c'est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Ainsi donc, garde la vérité, défends l'Église, les orphelins et les veuves, ceux qui prient et ceux qui travaillent. Tiens-toi toujours prêt contre ceux qui attaquent la Sainte Église, afin de pouvoir paraître en présence du Christ, armé et saint du glaive de la vérité et de la justice. Reçois l'épée, reçois la lance, reçois le bouclier, reçois les éperons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, l'Église, opposée à la violence par son devoir de fidélité à l'Évangile, méfiante à l'égard du soldat, tendait à faire des hommes de guerre ses alliés pour une œuvre de justice à l'intérieur, de défense des faibles et des opprimés, et pour les entraîner à la guerre juste, la guerre contre l'infidèle, la croisade, qui sera pendant plusieurs siècles, au XVIe siècle encore, l'une de ses plus fortes préoccupations. Il s'agit bien, écrit Jean Fleury, d'une réelle tentative de la papauté de prendre en main les destinées de l'Occident chrétien et de rassembler sous sa bannière une véritable armée au service de l'Église, une militia Christi. Il y a un lien, sans doute pas nécessaire, mais étroit, entre la chevalerie et la croisade. La croisade encourage la chevalerie et la chevalerie permet la croisade. Il n'empêche que le phénomène déborde largement la chevalerie. La croisade est un phénomène populaire d'une formidable ampleur. On estime à 1 million de personnes ceux qui se lancèrent en 1096 sur la route de Jérusalem. Le 15 juillet 1099, au bout de 3 ans, ils étaient 40 000 à entrer dans la ville où Jésus était mort et ressuscité. Dans ce million de croisés, sans doute y avait-il quelque chose comme 300 000 hommes armés. Soldats ou pas, ils étaient morts en masse, décimés par les maladies, la misère, la fatigue et la faim. Aujourd'hui, plus peut-être qu'à d'autres époques, l'idée de croisade soulève l'objection. Combattre, tuer, au nom du Christ, quelle aberration! On imagine plus que la relique et le pèlerinage, le Christ, surtout Jérusalem, représenté pour les chrétiens de ce temps. Car la croisade était vécue comme un pèlerinage. Or, les Turcs, devenus maîtres de la Palestine, avaient détruit l'église du Saint-Sépulcre. Ils arrêtaient, emprisonnaient, molestaient, quand ils ne torturaient pas, les pèlerins. Alors la chrétienté, et les chrétiens de France d'abord, fut extraordinairement sensible à la voix du pape Urbain II, le français Eudes de Châtillon, lorsque, au concile de Clermont, il proposa qu'on délivrât le Saint-Sépulcre. Des prédicateurs populaires, dont le plus célèbre est resté Pierre l'Ermite, répercutèrent sa voix, et ce fut un immense mouvement de foule. Les paysans, les commerçants vendaient leurs pauvres biens pour se mettre en route. Les enfants, les vieilles femmes, les vieillards se préparaient au départ, raconte un contemporain de la première croisade, Guy de Nogent. Ils savaient bien qu'ils ne combattraient pas, mais ils espéraient être martyrs. Ils disaient aux guerriers, « Vous, vous êtes vaillants et forts, vous combattrez. Nous, nous souffrirons avec le Christ et nous ferons la conquête du ciel. » On ne saurait assez voir que la croisade fut d'abord un pèlerinage, en vue non pas de réaliser des conquêtes terrestres, mais de gagner le ciel. On a essayé d'expliquer les croisades par la poussée démographique, ou par la crise économique, ou par l'ambition des cadets de familles nobles. Peu importe, écrit Michel Paris, la pression démographique, les mauvaises récoltes, la soif d'aventure, le besoin de conquête, la recherche du butin. Que pèse tout cela au regard de la foi, qui seule a jeté ses foules sur la route, une foi ranimée et entretenue par des prédicateurs comme ce Pierre l'Ermite devenu légendaire, par les pauvres sans autre avenir que la vie éternelle, comme Gautier sans avoir, ce conducteur de la croisade des pauvres gens au surnom symbolique. Plus tard, les seigneurs partiront à leur tour. Admettons qu'il faille mettre à leur crédit la conquête des lieux saints. Parmi eux, Godefroy de Bouillon, Baudouin, le roi lépreux, Bohémond le Normand, Tancrède, Raymond de Toulouse et combien d'autres se conduisent comme des héros. Et l'on verra au fil des croisades se succéder sur les champs de bataille de l'Asie mineure et de l'Empire byzantin les plus magnifiques souverains d'Occident, Louis VII et Conrad III, puis Frédéric Barberousse, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, et Frédéric II et Saint-Louis. Les croisés resteront maîtres de Jérusalem durant près d'un siècle, de 1099 à 1187, de Constantinople pendant plus de 50 ans, de 1204 à 1261, d'Édesse, de Tripoli, d'Antioche. Les Lusignans sont encore maîtres de Chypre au XVe siècle, les chevaliers de Rhodes et de Malte encore au XVIe. Il ne fait pas de doute que les croisades ont retardé, puis freiné, la poussée musulmane vers l'Occident. Retenons aussi que ces actions guerrières n'empêchent pas Jérusalem de demeurer un but de pèlerinage, aussi bien pour le peuple que pour des hommes d'armes. On voit encore au XIIIe siècle des croisades d'enfants, conduites l'une par le petit berger Étienne de Cloyes, près de Vendôme, l'autre par un jeune homme de Cologne, nommé Nicolas. Enfin, notons que ce mouvement de plusieurs siècles ne se limite pas aux 8 croisades classiquement dénombrées. Il y en a d'autres, comme celle dite des poètes, ou celle qui, à l'instigation de Clément VI, aboutit à la prise de Smyrne en 1344. Toute action militaire conduite contre les musulmans est croisade, qu'il s'agisse de la reconquête de l'Espagne sur les Maures ou de la défense des marches de l'Est, lutte aux 1000 épisodes, où s'illustra par exemple le franciscain Jean de Capistran, le vainqueur des Turcs à Belgrade en 1456. Une fois Jérusalem délivrée, en 1099, la plupart des croisés rentrèrent chez eux. Ils avaient rempli leur mission, accomplir leur pèlerinage. Il ne resta en Terre Sainte que quelques centaines de chevaliers. Ainsi, la conquête franque, isolée au milieu des populations musulmanes, se trouvait en grand péril. C'est alors que furent fondés les ordres militaires, les hospitaliers, les templiers, les teutoniques. Ceux qui les composaient étaient des religieux, liés par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais en même temps des soldats, occupés à protéger les pèlerins et à défendre les lieux saints. Ils jouèrent un rôle militaire de premier plan pendant tout ce temps où les croisés gardèrent des possessions en Orient. Leurs commanderies furent nombreuses dans tout l'Occident pour leur recrutement et pour leur assurer les ressources matérielles nécessaires à leur action. Ils furent amenés à jouer le rôle de banquiers de l'Europe. Les Templiers, surtout, ont laissé un souvenir considérable à cause de leur fin tragique. Leur manteau blanc, marqué de la grande croix rouge, hante la mémoire des historiens. Leur puissance et leur indépendance, leur richesse, excitèrent la haine et l'envie de l'impécunieux Philippe le Bel et de ses légistes. Le roi de France monta contre eux un procès géant qui concerna 15 000 inculpés. On accumula les calomnies et les faux témoignages. Soumis aux pressions exercées par le roi, le pape Clément V abandonna les Templiers à leur malheureux sort. 54 d'entre eux furent brûlés, parmi lesquels le grand maître de l'ordre, Jacques Molay, et le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay. Le dernier cri du grand maître sur son bûcher, « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite, à comparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. » Ce cri a inspiré bien des historiens, des dramaturges et des romanciers, parmi lesquels Maurice Druon n'est pas le moins connu. C'était le 18 mars 1314, 2 ans auparavant, en 1312, le concile de Vienne en Dauphiné avait décidé la dissolution de l'ordre. Les Templiers seront relayés en Espagne par les ordres similaires d'Alcantara, de Calatrava, de Montesa et de Santiago, qui prendront une part importante à la Reconquista, la reconquête de l'Espagne contre les Maures. Malgré la gloire douloureuse des Templiers, parmi les ordres militaires, ce sont pourtant les Teutoniques qui ont joué le rôle le plus important dans l'histoire. À partir de 1226, ils s'emparent de la Borussie, terre slave, repoussent ses habitants vers l'est et la peuplent d'Allemands, fondant ainsi la Prusse. À la même époque, ils dominent la région de Riga, la Livonie, la Lettonie actuelle. Au siècle suivant, ils se rendent maîtres de l'Estonie. Pendant 200 ans et plus, l'action souvent violente des chevaliers de Sainte-Marie de Jérusalem, c'est leur dénomination officielle, est prépondérante dans les régions qui bordent la Baltique. L'héroïsme de ces chevaliers était admirable, aussi bien en Palestine que face aux païens qu'ils combattaient en Lituanie ou en Transylvanie ou encore en Russie, où il leur arriva d'affronter l'envahisseur mongol. La décadence de la chevalerie commence dès le XIIIe siècle, et cela pour deux causes, l'une idéologique ou politique, l'autre militaire. Distincte de la féodalité, le chevalier lui est tout de même lié. Même quand il n'est pas errant comme le héros de Cervantes, le chevalier est un homme libre, indépendant, qui n'a d'autre loi que sa conscience. C'est un soldat du Christ et de l'Église. À partir du moment où le pouvoir politique se centralise, s'organise et se renforce, il ne faut plus que des soldats du roi, du prince. Par ailleurs, la guerre de Cent Ans sonne le glas de la chevalerie. Dès Crécy et de nouveau à Poitiers, à Azincourt, la chevalerie n'est plus la reine des batailles. Désormais, c'est le fantassin anglais, l'archer, dont les flèches de fer traversent les armures. Et voici que l'artillerie apparaît, les premières bombardent. Au XIIIe siècle, écrit Charles de Gaulle, qui commençait, fut à l'image de César, un historien remarquable, en même temps qu'un grand homme d'État, nous citons la France et son armée. Au XIIIe siècle, donc, le régime féodal montre des signes d'usure. Les meilleurs chevaliers ont péri aux croisades. Les autres, rentrés chez eux, ont rapporté d'Orient des goûts de luxe qui les ruinent et font scandale. Souvent, l'absence loin du fief a relâché les liens coutumiers, désaffectionné les vassaux, laisser tomber des droits en déshérence. Beaucoup de notables, jusque-là mêlés de près à la vie locale, se trouvent déracinés. Les redevances en paraissent plus lourdes. De sourdes colères troublent les campagnes, en attendant les grandes révoltes des Jacques, Maillotins, Feuchiens, Cabochiens, Chaperons Blancs. Bientôt, des parlements vont substituer la justice du roi à celle des seigneurs. Jusqu'alors, la force des armes était le monopole de la chevalerie. Or, l'armement se transforme aussi bien que les mœurs. L'arbalète, rapportée d'Asie, permet aux fantassins de tenir tête à la chevalerie. Il ne s'agit plus d'arcs ni de flèches en bois qui n'entament point le métal, mais bien de durs carreaux de fer, décochés par un arc d'acier tendu à la manivelle, dirigé par une glissière, et perçant bonnement l'armure. Et voici qu'à l'aurore du XIVe siècle, le canon fait son entrée dans le monde. Sans doute les premières bombardes, tubes de fonte bourrés de mitrailles de fer, n'ont qu'une portée faible et une précision médiocre, telle qu'elle pourtant est le tonne, crache le fer, épouvante les chevaux et tue fort bien bêtes et gens. Encore un peu et chargée à bouler, elles seront en état de faire brèche dans les donjons. Lorsque Édouard III d'Angleterre, ajoute de Gaulle, débarque à Saint-Vaast-la-Hougue en juillet 1346, il amène en France une armée radicalement différente de celle qu'on avait vue jusqu'alors. Ces 32 000 hommes sont organisés, armés, exercés. L'anglais a des archers formés en bandes régulières, habiles tireurs, rompus à utiliser le terrain et à bâtir des palissades. Il a des gendarmes à cheval, ordonnés et manœuvriers. Il a enfin des bombardes qu'il entremêle à l'infanterie. Désormais, la guerre n'est plus de seigneur à seigneur, mais de royaume à royaume. La grande affaire du souverain est de lever des armées d'arbalétriers, d'archers, de coutiliers, d'arquebusiers, de lanciers, de bombardiers. De plus en plus, les troupes sont composées de mercenaires étrangers. On en recrute de tous les pays. En France, on compte surtout des gardes suisses et des lansquenets et des reîtres allemands. La plupart des Français vivront en paix, écrit de Gaulle. Quelques-uns seulement feront la guerre. La matière du recrutement sera fournie par les isolés, dont l'absence n'incommode personne. Jeunes gens qui n'ont point de goût pour l'existence régulière de la ferme, du magasin ou du bureau, mais bien pour l'aventure et l'uniforme. Pauvres diables, aisément résignés à échanger leur liberté contre le vivre assuré et l'habit garanti. Mauvais sujet à qui la vie n'offre guère de choix contre le service et les galères. Il y eut bien des périodes où les routiers avaient vite fait de se métamorphoser en malandrins. Et ce ne fut pas le moindre mérite d'un Du Guesclin, par exemple, que de détourner les compagnies du pillage, de les réorganiser et de les employer sur des champs de bataille. Il arrive que les chefs eux-mêmes soient des étrangers, qu'on se rappelle en Berwick, Jacques Stuart, duc de Berwick, fils naturel de Jacques II, ou en Maurice de Saxe. Ce sont des exceptions. Les nobles combattent pour leur roi et assurent l'encadrement de ses armées. Pour revenir à la chevalerie, elle prend à la fin du XIVe et au XVe le tour sophistiqué, conventionnel, théâtral et bizarre qui prête à la caricature que Cervantes en a donnée. Elle n'est plus le fait que d'un petit nombre, constitué par la plus haute aristocratie. À la fin du Moyen Âge, on peut dire que l'entrée dans l'ordre chevaleresque, loin de constituer le fait normal, est devenue l'exception. Beaucoup de familles nobles, ruinées par la guerre ou par la dépréciation de leurs revenus, sont incapables de faire les frais de la cérémonie d'adoubement et plus encore de supporter les dépenses auxquelles engage sur le plan militaire le service de chevalerie qui suppose l'entretien de plusieurs pages et servants. Aussi, la chevalerie, au sens strict du mot, tend-elle à ne plus constituer qu'une élite restreinte dans la noblesse féodale, et ce rétrécissement s'accompagne d'un raffinement croissant des sentiments et des pratiques chevaleresques. L'exercice du chevalier, c'est la guerre, sans doute, mais davantage la joute, le tournoi, le duel dans la lice, sous les yeux des belles dames, dans un extraordinaire déploiement de splendeur et de luxe, avec un cérémonial dont les nouveaux ordres parfaitement factices, fondés par les grands seigneurs, celui de l'étoile, celui de l'écu vert à la dame blanche, celui du porc-épic, celui de la toison d'or, etc., ont fixé les rites. À force de raffinement, la vie chevaleresque finit par n'être plus qu'un jeu de société à grand spectacle, sans aucun point de contact avec la réalité. Ce ne sont que défis et serments d'amour. Les deux termes « chevalier » et « amoureux » deviennent synonymes. La prouesse est le moyen. La gloire, le but, l'amour, le stimulant. Le fondement essentiel de l'idéal chevaleresque est l'honneur, conçu comme une exaltation de la valeur personnelle aux yeux du monde. La raison comme l'intérêt matériel doivent céder devant les exigences de cet honneur qui implique essentiellement bravoure et générosité. On a souvent rappelé que les trois grandes défaites de la guerre de Cent Ans, Crécy, Poitiers, Azincourt, sont dues pour une large part à l'indiscipline de la cavalerie féodale, impatiente d'engager le combat et au désir de chaque combattant de se trouver au premier rang. Pour nous en tenir à Crécy, voici le récit qu'en fait le général de Gaulle, avec la concision et l'extraordinaire esprit de synthèse qui sont les siens. La France féodale, dit-il, n'aborde pas l'ennemi sans moyens. Pour livrer bataille aux 18 000 Anglais retranchés près de Crécy, on a, en hâte, recruté 15 000 archers génois, 20 000 routiers, plusieurs corps de milices, 10 000 chevaliers sont présents, parmi lesquels les plus grands seigneurs. Mais cette masse est désordonnée. Quand Philippe VI la met en marche, 6 lieues parcourues sous la pluie suffisent à tout bouleverser. Ni le roi ni les maréchaux n'étaient maîtres de leurs gens. Il eût fallu attendre le lendemain pour entamer le combat, d'autant que les archers génois, durement las d'aller à pied, et voyant leurs cordes d'arbalète trempées d'eau et hors d'état, supplient leurs connétables qu'on les laisse souffler et sécher. Mais la témérité des seigneurs emporte l'ordre du roi. Faites commencer la bataille. Engagement des Génois qui reculent criblés de flèches et de mitrailles, à quoi ils ne peuvent répondre. Charge poussée contre ces malheureux par les seigneurs, furieux de voir la ribaudaille empêcher la voie sans raison. Attaque des chevaliers français entamée précipitamment malgré la fatigue des montures qui glissent sur le sol des trempés. Désordre mis chez les assaillants par le tir des archers anglais et des bombardes. Déroute finale de la chevalerie, culbutée par les hommes d'armes du prince de Galles, eux tenus à couvert et en rang jusqu'à l'abordage. Telles sont les phases de cette défaite qui, en 2 heures de temps, ouvre la France à l'envahisseur. Plus réalistes seront les grands maréchaux de l'Ancien Régime, les Condé, les Turenne, les Villars, les Catinat, les Vauban, admirablement équipés par le génie de Louvois. Il n'empêche qu'il reste encore quelque chose de l'esprit chevaleresque au XVIIe siècle. Et encore pour Montesquieu au XVIIIe, l'honneur est le ressort de la monarchie. Et plus près de nous que les héros de Corneille, ceux d'Alexandre Dumas et d'Edmond Rostand nous disent que tout n'est sans doute pas illusion, ni vaine formule, lorsque l'honneur est sauf, et dès lors, rien n'est perdu.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 11e épisode, le peuple chrétien au temps du Moyen-Âge.